ensemble de Radio Grenouille, vous êtes à l'écoute de Silence Palmarès. Elle court dans une ruelle sombre en percutant des objets sur sa trajectoire. La scène précédente ne parvient pas à sa mémoire. Elle fuit un ennemi dont elle ne connaît pas le visage. La nuit autour est en noir et blanc et les contrastes sont atténués par un filtre vaporeux. Elle sait pertinemment qu'elle est une fois de plus coincée dans cette scène de film qui parvient à son esprit sans cesse lorsqu'elle ferme les yeux. Un moment qui semble vouloir se répéter à l'infini, dont elle parvient à identifier le début mais oublie à chaque fois le dénouement. Il me semble qu'à ce moment, la trame sonore laisse sous-entendre que le prédateur a cessé sa course. Elle s'arrête de courir pour écouter un instant. La rue, à droite, maintenant. Au moment de se diriger vers cette sortie de secours, elle constate que ses pieds sont accrochés au sol. La flaque d'eau dans laquelle elle pensait avoir marché se présente désormais comme une surface collante dont elle ne peut se dépêtrir. Elle tente d'amollir la substance goudronneuse et sent ses pieds bouger infimement sur le mélange. Au bout de quelques efforts, les muscles des jambes endoloris par la panique, elle constate qu'un espace profond se révèle sous le liquide délayé. Le mouvement de ses jambes, loin de lui permettre de poursuivre sa course, a plutôt creusé l'excavation qui la projette maintenant dans une chute sans fond. Entourée de noir profond, elle sent son corps tomber à une vitesse un peu trop réelle. Devant l'excès d'inquiétude, elle se replie sur elle-même et tente de recouvrir sa tête de ses petits bras affolés dans le but de protéger son corps pour le choc final. En plein milieu de la nuit, elle court à toute vitesse dans un champ. Ses pieds sont mouillés et froids. La terre est imbibée d'eau et la poursuite lui a fait perdre ses chaussures. La proximité d'un lac crée ces marécages humides qui s'étendent en surface monstrueuse autour d'elle. Les herbes frôlent ses cuisses alors qu'elle cherche les yeux un repère vers lequel se diriger. Rien autour que ce champ à perte de vue. Et au loin, la silhouette de celui qui la poursuit. Elle a vu encore une fois en gros plan saccadé son horrible visage sale, entouré d'une robuste mâchoire. À tout moment, il pourrait lui faire mal, broyer ses os de ses mains puissantes, ou encore perforer la membrane de ses oreilles avec ses doigts insistants. Elle tente la fuite, en courant à toute vitesse dans sa direction opposée. Il est plus rapide et avance dans un tremblement déterminé. Pas d'autre solution. Se projeter vers l'avant sans réfléchir aux probabilités. Un geste sec arrête sa trajectoire dans un tintement qui s'allonge. Une note de musique. Du sol, elle observe son corps en contre-plongée qui se balance dans un mouvement grotesque, puis s'écroule dans l'herbe comme une sorte d'accord plaqué. La corde tendue d'un piano invisible vient de lui couper la tête. Ma plus grande peur, c'est de ne pas exister réellement. Comme si le seul endroit qui pouvait rendre possible ma présence était cette émission. En dehors d'ici, je ne suis ni une présence physique. Je ne suis pas un individu qui fait partie de la réalité. Je ne suis pas une fille en activité qui rencontre des gens. Personne ne m'a jamais vue d'ailleurs. Je n'ai pas de consistance. Et si je devais par exemple quitter ce studio à l'instant, je ne sais pas où je trouverais le courage de le faire, parce que je sais très bien qu'en traversant le seuil de la porte, mon corps disparaît. Chacune des particules de ma peau, de mes cheveux, de mes yeux deviennent pâles et transparentes comme des morceaux de verre trempés dans l'eau. On pourrait s'imaginer qu'après cette transformation, les débris s'éclatent sur le sol du couloir dans un bruit expressif. Mais juste avant d'atteindre la surface du plancher, les morceaux disparaissent dans un spectacle métaphysique silencieux. En traversant la porte du studio, je me rapproche non seulement de mon évaporation physique, mais de la disparition de mon existence. Effacer toute trace de mon histoire. My story has disappeared. Je n'aurais donc jamais laissé aucun indice de mon visage, de ma gestuelle et des objets qui me sortent des mains en dehors de ce programme radio. Mon récit commence et se termine ici, assise sur cette chaise, derrière la vitre où un technicien me fait parfois signe de continuer. Le micro devant le visage cachant à peine la peur que j'ai au fond des yeux. Un fade-in sur la prochaine pièce musicale et un détail capte mon attention. Je tourne le regard vers la droite dans un mouvement un peu fantomatique. La porte du studio s'ouvre tranquillement et une masse de lumière blanche se propage comme une trappe qui s'ouvre sous mes pieds. Thierry Marceau. Écrit à partir des mémoires de l'enfer de Marilyn Manson. Un rêve parmi tant d'autres. Je me suis réveillée avec cette étrange sensation d'avoir été souillée par mon sommeil. Je rêvais que j'étais Brian Warner. J'étais chez lui, dans sa grande maison, alors que Twiggy et Pogo se ramènent avec ses junkies de roadies. Ils foutent la pagaille et me refilent un truc en comprimé que je m'enfile sans poser de questions. Je m'endors immédiatement et je fais son rêve, mot pour mot. Il y avait des scarificateurs, ces fans qui se staillent le nom du groupe sur la poitrine. Je suis au lit avec Jeannette, celle qui ressemble à un chérubin. Elle s'est tailladée Marilyn sur le corps. Toutes les lettres coulent sur ses seins comme de la peinture fraîche, tachant son débardeur blanc. Je la baise et on se marre parce qu'il nous semble que nous sommes en train de faire quelque chose que nous ne devrions pas faire. Sa copine Allison est assise à côté d'elle. Le mot Manson saigne sur sa poitrine. L'un de ses sourcils est décoloré. Les bagues incrustées dans ses lèvres cliquettent l'une contre l'autre. Elle porte une robe noire, des bas et des bottes noires qui s'arrêtent aux genoux. Elle semble en colère contre moi parce que je ne devrais pas faire ça avec sa copine. Et elle en veut à sa copine parce que la situation la fait rire. Une fois l'affaire conclue, elle m'invite à dîner. On descend dans un lieu humide et caverneux. Les murs sont en pierre comme un donjon. Ça pourrait être le sous-sol de mes parents, sauf que c'est aussi un restaurant. De l'eau sointe du plafond, tandis que par une ouverture au-dessous de nos têtes, la lumière pénètre à flot. Le serveur est un homme immense, genre Arien Maigrelet. Il nous apporte de grands bols en métal noir qui contiennent tous un oiseau vivant. Ça ressemble à des corbeaux. Ça n'en est pourtant pas. Ce sont juste des oiseaux noirs recouverts d'une pellicule de graisse luisante. Un autre type blanc vient à notre table, attrape des pinces géantes qui servent à découper les antivols de vélo. Il les décapite, les pèle. Il ne leur reste plus que la viande sur les os. Et les oiseaux sont toujours en vie. Le type attrape la tête d'un des animaux. Il en boit le sang et me propose de goûter sa chair. Je ne veux pas parce que j'ai peur d'attraper une maladie bizarre. Mais j'accepte quand même. Je bois tout le sang de l'oiseau. Lorsque j'ai fini, je ressens une violente douleur dans la nuque. Je me retourne. Le serveur est en train d'essayer les pinces sur moi, pour le plaisir des clients assis sur des tabourets, au bar, au-dessus de moi. Par contre, les pinces ne ressemblent plus à des pinces, mais à un croisement entre un bec d'oiseau et des mâchoires de crocodile. J'essaie de protester. Je comprends que c'est inutile. Tout ce que je regarde est à l'envers, puisque l'un d'entre eux porte ses lèvres sur le bord de mon cou pour boire mon sang. Lorsque je me réveille, je suis toujours parmi ces connards qui se sont éclatés à m'en crever. Leur corps flasque jonche le sol parmi les bouteilles vides, les seringues et un mélange humide mêlant coca et vomissure. Je dois traverser les restes de ce qui pourrit ma vie pour me rendre au cabinet de toilette. J'enjambe une de ces traînées gothiques qui sont prêtes à tout pour passer du temps à nos côtés, en enfer. Elle est tombée, comateuse, face contre le sol. La jupe encore relevée, une bouteille de Jack Daniels bien enfoncée lui fendillant l'anus, le cœur beurré de son propre sein. J'atteins de peine et de misère la cuvette. réussi à sortir le réservoir d'où je retire un sac plastique dans lequel se trouve un revolver. Je le garde pour une occasion spéciale. Je crois que ça y est.
Je vous demandais un peu plus tôt dans Silence Palmarès de partager vos cauchemars avec moi, vos cauchemars, vos mauvais rêves. Et j'ai reçu quand même pas mal de mails sur la boîte de réception de l'émission. Et il y avait quand même des témoignages assez intéressants. Comme par exemple, j'ai reçu un mail de Jérôme de Berlin qui m'écrit « Quelque chose dans le noir qui me lacère le cœur, les plaies béantes s'ouvrent sans aucune goutte de sang ne sorte, seule la douleur est vive et je sens la découpe qui est lente et précise, je hurle de douleur, je veux que l'on m'arrache de là, je n'arrive pas à crever, c'est presque un passage de l'enfer de Dante ». Il y avait celui-là aussi. Jason, qui m'écrit de très très loin, qui me dit « Un jour, j'ai rêvé que King Kong descendait le champ derrière chez moi et il s'approchait de plus en plus de moi et ma famille qui étions dans la maison. Il prit la maison dans sa main et l'arracha de la terre pour le tenir dans sa main et du coup, pris de peur et de panique, je changeais... Il y a des fautes des fois dans les mails. Je changeai instantanément de perspective et me retrouva à l'extérieur de la maison où je n'étais plus, vers 6 ans. Un jour, mon ami Mathieu, mon seul ami de cette époque, précise-t-il, et moi étions sur la berge glacée et nous jouions et étions très heureux. Quand tout à coup, la glace céda et mon ami partit à la dérive, cette perte fut très étrange et difficile. Je me suis levée en pleurant, vers 5 ans. Jason qui prend la peine de me décrire des cauchemars qu'il a fait à différentes époques de sa vie. Mais en fait, dans toutes ces histoires débridées-là qui décrivent des lieux et des situations plus ou moins abstraites, il y a quand même des moments où notre esprit, en fait, dans les cauchemars, sont attirés vers un élément précis, comme si tout le reste autour devenait flou et que notre attention était totalement accaparée par un objet, un personnage ou un son le temps d'un court laps de temps. Puisqu'en fait, pour résumer simplement, les cauchemars, c'est des mises en scène de nos peurs, hein, c'est des manifestations de notre cerveau pendant la nuit qui continue à travailler pendant qu'on dort, qui continue à créer même, et qui engendre cette sensation-là d'épouvante, en fait. Comme si, justement, le cerveau, pendant le sommeil, exprime de façon symbolique des peurs, des craintes qui viennent de l'intérieur, du plus profond de notre être, vers des symboles comme ça à l'extérieur qui pourraient être des espèces de menaces ou des dangers potentiels. En même temps, ça peut être aussi l'expression de désirs refoulés, hein. C'est pas juste des craintes ou des peurs qu'on exprime avec les cauchemars. Souvent, ça prend des formes qui peuvent être assez farfelues, hein, comme des espèces d'archétypes, comme les fantômes, les monstres, les sorcières, des présences monstrueuses dans le noir, des chutes libres vers un trou sans fond, des oiseaux qui poussent des cris. Ça peut être des trucs plus subtils aussi, comme un silence oppressant qui cache l'arrivée d'une catastrophe, hein, qui cache quelque chose derrière. En fait, il faut plutôt se demander qu'est-ce qui se cache derrière ces symboles-là. Et puis, on pourrait s'imaginer que ces mécanismes-là de notre cerveau sont en fait pas si éloignés que ça que de la vie de tous les jours, tu sais. On pourrait s'imaginer, par exemple, que toute la constitution de notre être, de notre attitude, de notre façon d'entrer en relation avec les autres sont aussi déterminées par ces peurs, ces craintes, ces soucis-là qu'on peut avoir qui agissent sur nous comme une espèce de prolongement dans notre corps, dans notre être. Un peu comme s'il y avait une autre personne, une petite personne peureuse qui vivait à l'intérieur de nous et qui cherchait à exprimer en fait ses sentiments par l'intermédiaire de notre propre corps, un peu comme si notre corps devenait un peu la peau devenait une frontière pour l'expression de ces émotions là. On pourrait s'imaginer que notre personnalité serait dirigée par une espèce de petit être à l'intérieur de notre corps, un peu comme une marionnette, par exemple, à l'échelle demi, je sais pas trop, et puis que cet être-là manipule transpérait à travers notre façon d'agir, un peu comme s'il y avait, par exemple, à l'intérieur de mon bras, j'ai un plus petit bras qui suit la forme de ce que je suis et qui va influencer mon comportement. Comme si aussi, par exemple, à l'intérieur de mes poumons, j'avais d'autres poumons un peu plus petits qui respirent le même air que moi, ouais, exactement au même rythme. Comme si, par exemple, à l'intérieur de mon œil, j'avais un œil un peu plus petit qui suit la forme de mon globe. Comme si, par exemple... Action! We'll be right back.